culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h, 17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, patrimoine, spectacle, visites et initiatives. L'Anjou va vous surprendre par sa richesse. Et nous sommes 6 dans l'émission pour satisfaire votre curiosité. Avec moi en studio, Marie et Dominique, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Un écrivain angevin est à l'honneur aujourd'hui, Hervé Bazin, né et mort à Angers. On le connaît surtout pour son célèbre « Vipère au poing » paru en 1948, où il réglait ses comptes avec sa mère maltraitante, la monstrueuse Folcoche. Romancier à succès de la deuxième moitié du XXe siècle et véritable illustrateur des mœurs familiales, il égratignait souvent le milieu bourgeois dont il était issu, ce qui explique probablement que la bonne société angevine de l'époque l'ait un peu boudé. On peut aujourd'hui visiter la maison de sa douloureuse enfance, le château du Paty, et l'université d'Angers possède un fonds d'archives exceptionnel sur Hervé Bazin. Et pourtant, l'écrivain est peu, voire pas étudié dans nos collèges et universités françaises. Il a demandé avant sa mort une petite rue à son nom auprès de Jean Monnier, maire d'Angers pendant 25 ans, et son vœu n'a toujours pas été exaucé. Son décès, en février 96, a été commenté avec une grande parcimonie dans la presse. Pourquoi un tel désamour pour un auteur aussi prolifique et doué? La question se pose auprès de nos 3 témoins du jour. Nous recevons Jean-Christophe Garnier, propriétaire du château-musée du Paty, le décor du roman « Vipère au poing ». Jean-Christophe Garnier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Anne-Simone Dufief, professeure émérite de littérature à l'Université d'Angers, nous donne son analyse de l'œuvre de Hervé Bazin. Et France Chabot, archiviste responsable des fonds spécialisés à la Bibliothèque universitaire d'Angers, dévoile la mine extraordinaire de documents conservés et disponibles à l'université. Et bien entendu, nous vous donnerons quelques idées de lecture pour découvrir ou redécouvrir cet auteur. Mais pour commencer, qui était l'écrivain Hervé Bazin? C'est parti pour 30 minutes ensemble. Avant d'aller dans sa maison d'enfance, nous avons demandé à Anne-Simone Dufief de nous parler de l'écrivain Hervé Bazin.
Hervé Bazin est un auteur qui est à la fois un auteur de romans, de nouvelles, et en même temps, il est critique littéraire dans la mesure où il s'est énormément investi dans l'Académie Goncourt. Alors, en tant que romancier, effectivement, Vipère au poing est son premier livre. Il a ensuite écrit une dizaine d'autres romans. Le dernier étant consacré à l'écologie, à un laboratoire. Donc, ces romans sont essentiellement des romans à caractère autobiographique et se déroulent essentiellement aussi dans le milieu familial. J'oubliais aussi quelque chose d'important. Il a également écrit des poèmes et ces poèmes sont d'ailleurs conservés dans le fonds Bazin de l'Université d'Angers. Alors, je disais qu'il était aussi critique littéraire, en mettant des guillemets à critique littéraire, dans la mesure où il a été membre de l'Académie Goncourt, puis président de l'Académie Goncourt. À ce titre, il a été très actif comme président de l'Académie Goncourt, instaurant la bourse Goncourt de la jeunesse, le Goncourt de la nouvelle, faisant beaucoup d'efforts également pour déterritorialiser le prix Goncourt en le faisant connaître à l'étranger.
Vipère au poing, donc, c'est le roman qui a révélé l'écrivain, un énorme succès, 25 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Le roman est inspiré de son enfance, d'une période de son enfance, dans le château du Paty, justement, quand il découvre ses parents qui ne l'ont pas élevé, à leur retour de Chine, et que la guerre commence entre les enfants et Folcoche. Alors, tout de suite, on part à Maran, à 5 km au sud de Segré, au château du Paty. Dominique, à quoi il ressemble ?
Eh bien, à l'origine, c'est-à-dire vers le milieu du XVIIIe siècle, c'est un simple corps de ferme, 8 fenêtres à rez-de-chaussée, avec des façades enduites et des encadrements d'ouverture en pierre de tuffeau. Il est coiffé d'une toiture en ardoise à très forte pente, éclairée par une alternance de lucarnes en chapeau de gendarme et d'œil de bœuf. Au milieu du 19e siècle, on ajoute un pavillon de chaque côté du logis, avec une toiture à 8 pans et un faîtage en croix. Très peu de temps après, on rhabille à nouveau cet ensemble pour le transformer en un vrai château néo-gothique, selon les principes architecturaux répandus à cette époque et dessinés par l'architecte Bibard. Alors on dresse deux tourelles octogonales contre la façade, avec des assises de pierre en alternance avec des rangs de briques et surmontées d'épis de faîtage très décoratifs. La première tourelle accompagne au rez-de-jardin la serre et le jardin d'hiver. Les deux sont couverts par une verrière et à l'étage, on aménage un oratoire éclairé par des fenêtres gothiques équipées de vitraux. La seconde tourelle abrite les latrines pour répondre aux exigences hygiénistes. Enfin, on installe un grand campanile à mi-longueur du faîtage de ce brillant château qui, hélas, depuis déjà un demi-siècle, a perdu une partie de ses décors exubérants. À l'intérieur, salon et salle à manger gardent encore tous leurs décors de la fin du 19e siècle, à savoir les cheminées, les plafonds et les papiers peints en mur. À l'étage, on a une succession de chambres très modestes, éclairées à l'est, et qui sont distribuées à partir d'un long couloir côté ouest qui dessert l'oratoire. C'est un très beau château, aujourd'hui au centre d'un parc paysager, avec de nombreux arbres centenaires, platanes pour la plupart.
Jean-Christophe Garnier, vous avez repris cette propriété en 2018. Vous en avez fait un musée passionnant qui bénéficie du label Maison des Illustres. C'est quoi ce label ?
Alors, le label Maison des Illustres, il est attribué à environ 250 établissements en France. Donc, ce sont principalement des écrivains, mais aussi des musiciens, des hommes politiques qui sont concernés. Il y a un cahier des charges très important, c'est le ministère de la Culture qui délivre ce label. C'est une reconnaissance de la qualité d'un certain travail, d'une qualité d'accueil. Il y a des grosses machines comme la maison de Monet à Giverny, ou bien la maison de Victor Hugo, mais il y a aussi des petits endroits plus modestes.
Alors Jean-Christophe Garnier, pourquoi avez-vous fait l'acquisition de ce château ?
Alors c'est un hasard, c'est le patrimoine qui m'intéressait. Il se trouve que c'était la maison d'Hervé Bazin, mais c'est le côté patrimonial qui m'intéressait d'abord, avant le côté littéraire. Et quand j'ai découvert, au moment de la visite, que c'était la propriété familiale historique d'Hervé Bazin, j'ai vite relevé le point et j'ai vu qu'une bonne partie de la propriété était décrite dans le roman. Alors le roman n'est qu'un roman, il y a une différence entre roman et réalité. Dans les interviews, Hervé Bazin nous dit que dans Vipère au Poing, il y a 75% de vrai et 25% d'inventé. Donc, il a fallu refaire, en fonction du roman, réhabiliter cette propriété qui était en très mauvais état il y a 6 ans. Il a fallu 3 ans de travail pour réhabiliter la propriété.
Alors, le château du Paty n'appartenait plus à la famille d'Hervé Bazin depuis 1961, parce qu'il faut savoir qu'Hervé Bazin l'a vendu tout de suite à la suite du décès de sa maman, qui est décédée en 60. Vous l'avez trouvé donc en très mauvais état. Alors, la rénovation, racontez-nous un peu ce périple. Alors, qu'avez-vous rénové ?
La rénovation, eh bien, il a fallu commencer par la toiture. La toiture a été entièrement refaite, puisque le château prenait l'eau de toutes parts depuis de nombreuses années. Il a fallu réaménager les pièces qui avaient été rénovées dans les années 80-90, qui étaient peintes en rose fuchsia, ce genre de choses. Donc il a fallu repatiner tout ça et il a fallu remeubler et redécorer pour retrouver l'atmosphère du roman.
Voilà, j'y viens. Votre métier, c'était décorateur de théâtre. Donc vous avez reconstitué les pièces du château, enlevé la patine 80-90 donc, et repris une ancienne patine. Comment avez-vous procédé ?
Alors, il n'y a pas de photos des intérieurs du château du Paty, de photos d'époque.
Époque donc, Folcoche.
De l'époque Folcoche, de l'époque de Hervé Bazin, enfant.
Et avant, par contre, il y en a.
Non. Des photos anciennes, il n'y en a aucune. Il y a des photos extérieures, mais pas intérieures. Donc, il restait les cheminées monumentales, quand même. Donc,
qui sont magnifiques.
Qui montraient des colonnes torsadées. Donc, c'était évident qu'il fallait un mobilier dans le même style que les cheminées. Les plafonds peints du salon et de la salle à manger étaient existants, même s'ils étaient en mauvais état. Donc, c'était quand même une base.
Et sur cette base-là, comment vous avez procédé alors ?
Et sur cette base-là, j'ai passé 3 ans en haut de l'échafaudage, avec le pinceau à la main, et puis j'ai passé ma vie sur inter-enchères, parce que pour acheter tous les gros meubles, il n'y a que les ventes aux enchères, et puis le bon coin, et puis les vides-greniers, les brocantes, il fallait absolument redonner une âme à cette maison.
Et donc, de recherche iconographique, vous n'avez pas pu en faire, vous avez dû vous baser sur des témoignages.
Exactement. Les personnes âgées du village avaient connu le château quand ils étaient enfants. Donc, j'avais quelques petits témoignages qui ont vraiment connu l'endroit.
Décrivez-nous l'ambiance ressentie dans la maison. Que dit-elle de cette famille ?
Alors, c'est une famille bourgeoise. Donc, mais la petite bourgeoisie de la campagne, on va dire. Donc, salon et salle à manger, ce sont des pièces de réception. Donc, ce sont vraiment des pièces bourgeoises de qualité. Et puis, les chambres des parents à l'étage sont pas trop mal. Et alors, les chambres des enfants, par contre, ce sont des chambres mansardées, on peut dire miséreuses.
Ambiance cellule monacale.
Dominique, vous avez une question ?
Oui, je voulais savoir, parmi les gens qui viennent visiter cette maison, existe-t-il pour la plupart des gens qui viennent parce que c'est la maison d'Hervé Bazin, ou au contraire, viennent-ils parce que c'est du patrimoine angevin et que l'on vient visiter entre Segré et Saint-Georges-sur-Loire ?
Alors, c'est un petit peu des deux. Le château du Paty est ouvert à la visite depuis seulement 3 ans. Et donc, c'est un petit peu compliqué pour l'instant de se faire connaître. Donc, ce sont des gens qui viennent en Anjou bleu pour visiter la mine bleue, par exemple, et qui profitent du fait qu'ils sont en Anjou bleu pour visiter ce château. Et il y en a d'autres qui font le voyage spécialement, qui aiment Hervé Bazin. Ce sont des visiteurs pour qui Folcoche veut dire quelque chose. Ce sont des gens qui ont un souvenir de Vipère au Point. Et ça, c'est très important. Les visiteurs sont ravi de retrouver l'âme du roman et de sentir le souffle de Folcoche rôder dans les couloirs.
Très bien.
Le milieu familial décrit dans Vipère au Point, c'est bien celui de l'auteur, une bourgeoisie catholique stricte, consciente de ses privilèges et qui s'effondre un peu à peu à cette époque. C'est là toute la force et l'universalité du livre. Étrange itinéraire que celui de ce révolté, Hervé Bazin, renvoyé de plusieurs collèges religieux, Montgazon, Combray, collectionnant les conflits familiaux et qui a exercé toutes sortes de petits métiers, représentant de commerce, journaliste, employé de PTT, valet de chambre, récupérateur d'ordures ménagères, nègre d'un écrivain, d'où la multiplicité de son œuvre et de ses prises de position. Sa mère a dit de lui, au moment où il est de son élection à l'Académie Goncourt, elle a dit « se rater, il a fini par réussir ».
Alors, s'il a été élu à l'Académie Goncourt, c'est bien parce qu'il avait un style littéraire particulier. Qu'est-ce qui caractérise son écriture ? On écoute Anne-Simone Dufieff.
Je dirais que le style de son écriture, il est d'abord caractérisé par une sorte d'écriture zéro, de degré zéro du style. Il s'interdit des recherches de rhétorique, des recherches d'images, de descriptions. Donc, c'est plutôt un style assez neutre. Et en même temps, il y a une très grande place faite au dialogue. Et chez Hervé Bazin, le dialogue lui permet de caractériser, à mon avis, les personnages, la psychologie des personnages, parce que chacun parle sa langue, chacun utilise son propre vocabulaire. Si vous pensez, par exemple, à un roman comme Vipère au Point, évidemment, vous avez le vocabulaire des adolescents qui n'est pas celui de la mère ni du père du héros. Le réalisme au début du XXe siècle se veut une écriture plus ou moins blanche. Si vous voulez, vous ne trouverez pas chez Hervé Bazin de descriptions particulièrement poétiques de la campagne angevine, par exemple.
Dans un roman
qui s'intitule « Qui j'ose aimer » et qui se déroule au bord de la Loire, vous avez quelques descriptions des bords de Loire, mais elles ne sont pas aussi importantes que ce à quoi on pourrait s'attendre.
Alors je reviens, vous en avez parlé à Vipère au Point, qui est un peu son roman phare, son coup de maître, son premier roman et un succès phénoménal immédiat. Et pourquoi, à votre avis, ce roman cache-t-il les autres ?
Je pense qu'il y a au moins 2 raisons. Une première qui tient au genre du roman. Le roman dans lequel Hervé Bazin s'est épanoui, c'est ce qu'on pourrait appeler le roman de mœurs. Or, le roman de mœurs, c'est un roman qui, par définition, s'appuie sur des problèmes qui sont les problèmes que rencontre une société à un certain moment donné dans un certain milieu. Or, ces problèmes et cette société sont appelés à évoluer, à disparaître. Par conséquent, si un roman est majoritairement un roman de mœurs, je pense en particulier au Matrimoine. Si un roman est particulièrement un roman de mœurs, il apparaît à des lecteurs d'aujourd'hui, ou il pourrait apparaître à des lecteurs d'aujourd'hui comme une curiosité, voire une curiosité historique. Hein. En revanche, un roman comme Vivre au point apparaît plutôt comme un roman de formation d'un adolescent en révolte avec l'autorité parentale. Alors que cette révolte contre l'autorité parentale n'est pas exactement la même forme aujourd'hui et il y a 70 ans, c'est une évidence, mais en même temps, il y a toujours une révolte adolescente et je pense que c'est ça qui en fait le succès qui ne se démode pas.
Le romancier des mœurs, le témoin de l'évolution de la société, surtout de la société provinciale, dans la deuxième moitié du XXe siècle.
Alors nous allons faire une petite pause musicale avec Zao de Sagazan qui se produira le 3 avril au Chabada. On écoute la Symphonie des éclairs et nous retrouvons notre émission sur Hervé Bazin et la maison Musée du Paty avec notre invité Jean-Christophe Garnier tout de suite après.
Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas, pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage, je traverserais les nuages comme le fait la lumière, j'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs.
Et nous continuons notre émission sur Hervé Bazin et la maison musée du Paty, décidément j'ai du mal, demeure familiale de la famille Hervé Bazin où se situe l'histoire du roman Vipère au point. Avec vous, notre invité Jean-Christophe Garnier. J'ai bien dit la famille Hervé Bazin et pas la famille Bazin, expliquez-nous ça.
Alors, c'est une histoire un petit peu biscornue, effectivement. Je précise dans la visite guidée, et c'est ce que je précise au tout début, parce que les gens sont un peu perdus. Le grand-père d'Hervé Bazin s'appelle Ferdinand-Jacques Hervé. Hervé, c'est son nom de famille. Quand Monsieur Hervé épouse Mademoiselle Marie Bazin, ils unissent leurs deux patronymes pour former un nouveau nom de famille, un nom composé Hervé-Bazin. Donc officiellement à l'état civil, c'est la famille Hervé Bazin. Notre futur romancier s'appelle donc Jean, son prénom, Hervé Bazin, son nom de famille. Jean-Hervé Bazin, c'est son véritable nom. Mais quand il propose son manuscrit de Vipère au point en 1948 aux éditions Grasset, Bernard Grasset, qui est un vieux routier de l'édition, lui dit « Non, Jean-Hervé Bazin, c'est trop long, on va simplifier ». Il raccourcit d'office son nom en Hervé, le prénom, et Bazin, le nom de famille. Donc Hervé Bazin est un pseudonyme, c'est un nom de plume. Son véritable nom, c'est Jean-Hervé Bazin. Et c'est pour ça que dans le roman, le héros s'appelle Jean.
Jean-Christophe Garnier, Hervé Bazin, ça n'est pas le seul écrivain ou même intellectuel de la famille. Il est, malgré sa révolte, l'héritier d'une tradition familiale. Vous racontez ça aussi, avec talent. L'histoire de la famille et des talents de la famille.
Allez-y. Alors, traditionnellement, dans la famille Bazin, on fait des études de droit et on exerce un métier en rapport avec le droit. On est professeur de droit, notamment ici, à la Cato. On est avocat, on est juge d'instruction. Mais à côté de ça, on écrit. Tout le monde écrit et tout le monde publie surtout. Notamment le grand-père d'Hervé Bazin, Ferdinand-Jacques Hervé Bazin. Il va écrire un roman qui est extrêmement célèbre dans la région, un roman d'après une histoire vraie. C'est Roger le Braconnier. C'est lui le premier qui va écrire l'histoire de Roger le Braconnier. Ça se passe à Domrey, à l'est du département. C'est très connu dans la région. Alors il le publie sous pseudonyme. Il prend le pseudonyme de Charles Saint-Martin pour publier son roman.
Il y a aussi René Bazin.
René Bazin, qui est le frère de la grand-mère. Donc René Bazin, c'est le grand-oncle d'Hervé Bazin, qui lui deviendra académicien français en 1903.
Et il y a sa grand-mère qui écrivait aussi sous pseudonyme, je crois.
Exactement, la grand-mère Marie Bazin écrit des romans à l'eau de rose, des romans pour jeunes filles. Nous sommes dans la bourgeoisie, donc pareil, elle va utilise un pseudonyme masculin. À cette époque-là, il valait mieux si elle voulait vendre. Elle va s'appeler Jacques Brett. Et sous le nom de Jacques Brett, elle publie un certain nombre de petits romans. Donc, dans la famille d'Hervé Bazin, on sait ce que c'est que d'écrire et de publier.
Ça fait 4 romanciers, là, j'ai compté.
Alors, revenons à Hervé Bazin. Comment travaillait-il, bâtissait-il ses romans? On a une mine de renseignements dans le fonds d'archives de l'Université d'Angers.
Oui. Au décès d'Hervé Bazin, ses enfants ont décidé de vendre aux enchères à Drouot les archives qu'il avait lui-même constituées tout au long de sa vie. La bibliothèque universitaire d'Angers a réussi à préempter la quasi-totalité de ce patrimoine, soit 22 manuscrits et près de 9000 lettres. Un bel éclairage sur sa méthode de travail, comme nous l'explique France Chabot, archiviste responsable des fonds spécialisés à la bibliothèque universitaire d'Angers.
Un travail vraiment de conservateur, puisqu'il conservait tout. Il conservait même la documentation préparatoire, des coupures de presse, des articles, des notes prises éparses. Et aussi, il faisait des calendriers de travail, des tableaux chronologiques. Et il dessinait, il faisait aussi des dessins, des sortes de plans topographiques des lieux de ses intrigues. Le manuscrit de l'église verte, on voit des plans de maisons, des plans de villages, des plans de forêts. Et très minutieux, ces plans sont vraiment artistiquement dessinés, c'est presque des œuvres d'art.
Et malheureusement, peu de recherches sont effectuées sur ces précieuses archives, comme nous l'explique France Chabot.
On a aussi un fonds documentaire, hein, des mémoires, des thèses, et on s'aperçoit que ce sont des Américains, des Anglo-Saxons qui travaillent sur Hervé Bazin. Comme si, à l'université française, on ne s'intéressait pas à un auteur très populaire, très traduit, qui aimait être publié en livre de poche, qui a créé le Goncourt des lycéens, justement, pour ouvrir la littérature au plus grand nombre.
Vous l'aurez compris, France Chabot se désole que ce fonds exceptionnel soit si peu exploité. Les 9000 lettres constituent une matière inestimable pour l'histoire de la littérature et du milieu littéraire en France au XXe siècle. Parce qu'Hervé Bazin a été membre puis président de l'Académie Goncourt et ce pendant 23 ans, il a fortement réformé et modernisé cette académie. Pour information, n'importe qui peut consulter les archives, il faut juste prendre rendez-vous.
Alors pourquoi ce désamour? Les romans ont-ils vieilli? Son œuvre est-elle toujours d'actualité? Certains ont un peu vieilli, selon Anne-Simone Dufieff, car ce sont des romans de mœurs, on l'a dit, mais pas tous.
Je pense effectivement qu'un roman comme Libéraux Point est susceptible de ne pas avoir vieilli. En revanche, certains autres romans ont des aspects par lesquels ils peuvent avoir vieilli et des aspects par lesquels ils peuvent être encore actuels. Si je pense à un roman que j'aime beaucoup, il s'appelle La tête contre les murs. La tête contre les murs est un roman qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui a un grave accident de voiture, qui est donc interné parce qu'il a un traumatisme crânien dans un hôpital psychiatrique. Cette situation tragique et qui pose un problème d'identité et à mon avis il est possible qu'elle trouve des échos dans le public aujourd'hui.
Alors on a beaucoup de matière, Jean-Christophe Garnier, sur sa littérature, sur sa manière d'écrire, on l'a vu, mais que sait-on de l'homme privé? Qu'est-ce que vous avez compris sur lui parce que vous avez fait beaucoup de recherches? Vous avez pas mal d'anecdotes, je crois.
L'homme a effectivement eu une vie très mouvementée. Donc, des études très compliquées. Il a été renvoyé de tous les établissements classiques dans lesquels ses parents l'avaient mis. Finalement, quand même, il arrive à faire des études de lettres à la Sorbonne à Paris. Et il essaie d'écrire des poèmes. Et pour pouvoir survivre, il fait 36 métiers. Car il était fâché avec ses parents. Et ses parents avaient coupé les vivres. Et ça va durer une bonne quinzaine d'années, cette période de vache maigre, au cours desquelles il va avoir des activités même pas très licites. Il va avoir des ennuis avec la justice. Et tout d'un coup, arrive Vipère au Point, qu'il rédige fin 1947, en seulement 5 semaines, nous dit la légende, et qui va être publié début 48. Et là, ça va exploser d'un coup d'un seul. Et là, il va commencer un petit peu à se ranger et avoir une vie officielle beaucoup plus calme.
Enfin, il a quand même eu 4 épouses successives et beaucoup d'enfants.
Il a eu 4 épouses et 7 enfants. Et pour faire simple, c'est lui qui à chaque fois quitte le foyer familial pour une plus jeune.
Hervé Bazin, il était très attaché à l'Anjou. Quasiment tous ses romans ont l'Anjou pour cadre. Il y a acheté d'ailleurs plusieurs propriétés qu'il rénovait et vendait. Il y est mort. Est-ce qu'il est revenu au Paty? Est-ce que vous le savez, ça, dans l'histoire du Paty? Est-ce qu'il est revenu sur son lieu
d'enfance? Alors, il dit qu'il n'est jamais revenu au Paty. Il n'y est jamais revenu officiellement. Effectivement, je sais qu'il y est venu au moins une fois, qu'une autre fois il aurait voulu y revenir, mais que les personnes n'étaient pas là. C'est-à-dire qu'après qu'il ait vendu le Paty en 1961, il a vendu en démembrant la propriété sciemment, parce qu'il dit qu'il avait été malheureux dans sa jeunesse dans cette propriété, et il a vendu séparément la ferme et les terres agricoles. Mais enfin, il est revenu pour une émission de télévision pour France 3 dans les années 80, et je sais par les propriétaires de l'époque qu'il avait voulu venir, mais qu'ils étaient absents.
Voilà, donc entre la légende et la vérité, avec Hervé Bazin, il y a du chemin. Vous faites visiter ce château du Paty que vous appelez maison-musée depuis bientôt 3 ans. Comment est-ce que le public accueille cette magnifique reconstitution que vous avez faite?
Ah ben, les gens sont enthousiastes.
Ils retrouvent ce qu'ils ont lu.
Je le dis exactement, parce qu'ils parcourent une vingtaine de pièces du château qui sont toutes meublées et décorées, et entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Et en fin de parcours, il y a une salle contemporaine qui présente l'ensemble de l'œuvre d'Hervé Bazin.
Donc on peut y retrouver ses ouvrages.
On y retrouve également des facsimilés provenant du fonds Hervé Bazin, oui, que l'on évoquait tout à l'heure. Et il y a également une petite librairie qui présente des livres régionaux sur l'Anjou.
Et il y a aussi un livre que vous avez conseillé qui est très très bien, c'est Dans les pas de Hervé Bazin, c'est de Philippe et Catherine Nédélec, Une vie, une œuvre, aux éditions du Petit Pavé, c'est une biographie que j'ai trouvée très très intéressante. Donc si vous avez envie de découvrir ou de redécouvrir Hervé Bazin, on a demandé à Anne-Simone Dufieff, hein, elle nous conseille Vipère au poing, La tête contre les murs et Le matrimoine en priorité. Pour conclure, Hervé Bazin, c'est donc un de nos grands écrivains dans la veine naturaliste contemporaine, un après-Mauriac en quelque sorte. Il a quand même beaucoup fait pour le français dans le monde et la qualité de notre langue, avec une œuvre translucide, au point que la recherche n'y a jamais trouvé beaucoup d'enthousiasme, et c'est parfois un peu dommage. N'hésitez surtout pas à aller visiter la Maison-Musée du Paty, qui réouvre ses portes le 29 avril. Vous trouverez tous les renseignements sur le site châteaudupaty.com. Paty, ça s'écrit P-A-T-Y-S. Et voilà, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Jean-Christophe Garnier, justement pour présenter cette visite?
Eh bien, c'est ouvert à la visite aux individuels les vendredis, samedis, dimanches. La visite guidée est à 14h et c'est moi-même qui assure la visite guidée. Elle dure environ 2 heures. Et puis, c'est ouvert toute la semaine pour les groupes. J'ai beaucoup de groupes, des associations, des seniors, des scolaires, des passionnés de vieilles voitures. C'est une jolie étape en Anjou bleu.
Et est-ce qu'on vient de loin pour la visiter ?
Principalement du Maine-et-Loire, pas mal de Nantes, de Rennes, c'est quand même très régional. J'ai quelques personnes qui viennent d'un petit peu partout, j'ai des Québécois qui sont venus. Bon, c'est plutôt anecdotique au niveau des Québécois, effectivement.
Bon, donc allez au château du Paty et surtout ne boudez plus les œuvres d'Hervé Bazin. Nous, on s'est régalé parce qu'on s'est replongé dans Le matrimoine ou Le cri de la chouette. Et au fait, on a oublié quelque chose. Qui sait ce que veut dire folcoche en studio? Vous savez, alors je vais le dire à votre place, c'est du patois angevin et c'est le nom donné par les paysans à une truie qui met en bas, dévore aussitôt ses petits. Bon appétit à tous. Merci Jean-Christophe Garnier d'être venu aujourd'hui en studio. Merci Anne-Simone Dufieff, professeure émérite de littérature à l'Université d'Angers pour ses éclairages, à France Chabot, responsable des fonds spécialisés à la Bibliothèque universitaire d'Angers qui nous a ouvert les portes de ses précieuses archives. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Retrouvez-nous un mercredi sur deux en direct à 17h et le dimanche à 11h ou bien sûr en podcast. Et n'oubliez pas, la curiosité se partage sur les réseaux sans modération. Très très belle semaine à tous.
émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.